phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow with your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tamed like the shrew. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capula, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus Andronicus was bound to fail. So will you if a Carla get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Cymbeline, she was on a date with the Jones. Love's labor's lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh oui, malgré le fait que c'est l'été, eh ben le Canu Info du mercredi tient bon. Et donc, il est 7h, oh là là, 6 déjà, alors on tient bon, mais on laisse le générique un peu longtemps. Bref, ce soir, l'Égypte en route vers la guerre civile.
Ensuite, on va revenir sur les manifestations en Tunisie.
Braquage en série.
Ensuite, on va parler d'expulsion de squats à Toulouse.
93% des cours d'eau français pollués par des pesticides.
Ensuite, on va avoir une présentation de Radio Mont Aiguille. C'est un enregistrement qui a lieu au festival Rockin' Gats à Glandage.
Ça sera à l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et avant de bien préparer vos départs, car on le sait, c'est le fameux chassé des croisés du mois d'août et du mois de juillet.
Des juilletistes et des aoûtiens, ça s'appelle.
Ah, c'est comme ça qu'on dit, c'est vrai. Et ben, quelques points importants sur l'autoroute et quelques petites mises en garde. Écoutez bien.
En Égypte, le pouvoir demande de disperser les sit-ins des frères musulmans. Alors, le gouvernement égyptien a déclaré aujourd'hui qu'il considérait les sit-ins organisés par les frères musulmans comme une menace pour la sécurité nationale et il a annoncé qu'il allait intervenir pour y mettre fin. Les islamistes ont, eux, appelé à poursuivre la mobilisation dans la rue. Alors, il faut quand même souligner que jusque-là, en tout cas, les islamistes, bon, ils se sont défendus quand ils se sont fait tirer dessus, hein, mais pour l'instant, ils sont pas. Leur sit-in, par exemple. Le fait que ça soit une menace, c'est de la pure conjecture, puisque pour l'instant, en fait, leurs sit-ins ne sont pas violents du tout. Et les manifestations qui ont eu lieu hier, c'était plutôt à coups de pistolet à eau. Et les gens se sont énormément aspergés, il faisait chaud, tout ça. Enfin, c'était plutôt ambiance comme ça. Donc, la poursuite de situations dangereuses sur les places du Caire, le terrorisme qui en découle ainsi que les rues bloquées ne sont plus acceptables. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du gouvernement égyptien qui a demandé au ministre de l'Intérieur de faire tout le nécessaire pour y remédier, dans le cadre de la loi bien sûr. Les frères musulmans, donc eux, ils sont dans plusieurs endroits du Caire et ils ont fait savoir qu'ils resteraient sur place jusqu'à ce que le président Morsi soit rétabli dans ses fonctions. La mobilisation du camp pro-Morsi a quand même faibli hier, puisque du coup la manif dont je parlais, coup de pistolet à eau, là, c'était quelques milliers de personnes qui ont défilé seulement, alors que les organisateurs avaient appelé à une marche de 1 million de personnes. Bon, il faut quand même dire que ça a de quoi faire un peu hésiter. Hein. Là, on en est à 300 morts depuis un mois, c'est-à-dire depuis le coup d'État, dont une bonne partie sont des manifestants qui se sont fait tirer dessus à balles réelles, quoi. Bon, pendant ce temps, Morsi lui-même est sous le coup d'une demande de mise en détention préventive de la part de la justice égyptienne. Alors bon, en attendant la demande de mise en détention préventive, il est quand même en tôle. Il faudrait pas croire. Il est accusé de complicité avec le Hamas palestinien, notamment lors de son évasion de prison début 2011, pendant la révolte qui avait fini par être une révolution et par virer Moubarak. Donc là, le peuple qui en ce moment, à certains moments, va faire des manifestations pour soutenir l'armée dans sa lutte contre les frères musulmans, devrait peut-être y réfléchir un peu à deux fois. Parce que le peuple en question, donc pour une part en tout cas, c'est les gens qui ont fait la révolution en 2011, et là Mohamed Morsi est accusé en gros d'avoir participé à la même révolution. Alors bon, pour une part seulement, hein, parce que a priori les anciens pro Moubarak sont aussi du côté du nouveau pouvoir. Et puis tiens, samedi dernier, le ministre de l'Intérieur égyptien, donc du nouveau pouvoir, a annoncé qu'il rétablissait les services de renseignement qui avaient été supprimés par la révolution. Donc, il remet en place la police politique de Moubarak. Pardon. Alors voilà, nous on avait quand même été plutôt enthousiasmés le 3 juillet, là, au moment du renversement de Morsi. Hein, c'était un mercredi. Le jour où c'est nous qui faisons les infos. Et donc voilà, c'était quand même des manifs gigantesques, les gens qui étaient vraiment descendus dans la rue, tout ça. Et puis l'armée qui était intervenue, mais qui était intervenue comme en jurant voilà la Mecque sur sa mère et tout ça, qu'il donnait un petit coup de main là, et puis qu'après, hop, il disparaissait, il rendait le pouvoir aux civils. Bon, nous, à ce moment-là, en tout cas, on avait au minimum envie d'y croire. Sauf que depuis, l'armée semble plutôt rester bien, bien, bien en place. À l'époque, on n'avait pas vraiment de nom. Maintenant, on en a un. Il y a l'homme fort de l'armée, qui est le général Sisi. Et donc, l'armée a certes mis en place un gouvernement civil, mais le gouvernement civil a l'air d'être quand même bien aux ordres de l'armée. Et puis, ça s'appelle un gouvernement de transition. Mais on n'a aucune idée du temps que va durer la transition. Potentiellement, ça peut être très, très longtemps. Et surtout, l'armée n'hésite pas à massacrer les frères musulmans à la première occasion, en particulier dès qu'il y a une manifestation qui pointe son nez ou ils se font tirer dessus à balles réelles. Alors d'une part, c'est pas exactement comme ça qu'on aime une révolution, et puis d'autre part, ça semble pas être très très malin quand même. Et là, en tout cas, moi je peux pas m'empêcher de penser au scénario de l'Algérie dans les années 90. Parce qu'en gros, on a quand même quelques points communs, c'est-à-dire un processus électoral régulier, enfin où il n'y a pas de fraude en tout cas, et où des islamistes en Algérie s'apprêtaient à gagner. En Égypte, on avait gagné depuis un moment. En tout cas, les islamistes allaient arriver ou sont au pouvoir suite à des élections régulières, et puis l'armée intervient et elle suspend la constitution, elle met les barbus en prison, et là, en l'occurrence en Algérie, c'était parti pour 10 ans de guerre civile et de massacres, et qui ont fait, alors selon les sources, hein, entre 60 000 et 150 000 morts. C'est pas exactement ce qu'on souhaite à l'Égypte, mais peut-être qu'il faudrait que l'armée essaye d'être un peu plus maligne que ce qu'elle est pour l'instant. Parce que là. Alors. Bon, hier, on a Laurent Fabius qui a appelé à la libération des prisonniers politiques, y compris y compris la libération de l'ancien président Mohamed Morsi. Donc ça, c'est Fabius. Hein. Bon, là-dessus, les autorités égyptiennes ont annoncé qu'elles allaient traduire en justice Mohamed Badi, qui est le guide suprême des frères musulmans, et deux autres cadres de la confrérie pour incitation à la violence. Le guide suprême, lui, va être jugé pour incitation au meurtre. Et tout ça n'empêche pas le nouveau vice-président Mohamed El Baradei de déclarer, deux points ouvrez les guillemets, les frères musulmans font toujours partie du processus politique, oui, en tant que prisonniers en fait, enfin ça c'est moi qui l'ajoute, c'est pas lui, et nous voulons qu'ils y prennent part au nouveau processus politique. Donc le nouveau pouvoir égyptien semble bien ne pas hésiter à se foutre de la gueule de tout le monde. Donc pour l'instant, les manifestants des frères musulmans se défendent avec des cailloux face aux balles, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et combien de temps ça va prendre pour qu'ils perdent patience et qu'ils s'organisent de façon peut-être un peu plus offensive. Alors voilà. Bon, étonnamment, les différents pays occidentaux semblent réagir de façon exceptionnellement plutôt maline, sans que, enfin pour cette fois en tout cas, ils n'ont pas l'air de céder à la peur des méchants barbus ou je sais pas quoi. Et alors on comprend pas bien, c'est pas habituel, mais il y a tout un ballet diplomatique, en particulier occidental, qui semble être plutôt, moi je trouve plutôt correct. Donc les appels se multiplient à mener une transition qui inclut toutes les parties, notamment les frères musulmans. Et puis il y a Catherine Ashton qui est passée hier en Égypte, qui a tenu à rencontrer Mohamed Morsi. Aujourd'hui c'est l'envoyé spécial de l'Europe au Moyen-Orient, un gars qui s'appelle Catherine Ashton, pardon, c'est la représentante de la diplomatie de l'Union Européenne. Aujourd'hui c'est cet envoyé spécial de l'Europe au Moyen-Orient qui s'appelle Bernardino León, qui était au Caire pour poursuivre les efforts de médiation de Ashton. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, devait lui aussi arriver au Caire pour réclamer un retour rapide à la démocratie. Barack Obama, lui, il envoie des sénateurs, donc entre autres John McCain, pour presser l'armée d'organiser des élections générales et accélérer un retour au pouvoir civil. Et voilà, Fabius, là, on l'a vu. Alors Fabius, c'est quand même la France, quoi. La France qui normalement est quand même toujours du côté des gouvernants, en tout cas toujours du côté des plus forts et des plus méchants. Bah là, exceptionnellement, du coup, Fabius qui appelle à libérer les prisonniers politiques. Et puis l'Union africaine, qui a, eux aussi, ils ont rencontré Morsi. Et l'Union africaine a par ailleurs suspendu l'Égypte après la déposition de Morsi, donc suspendu en tant que membre. Alors là, l'Égypte a essayé de convaincre l'Union africaine que non, il fallait pas faire ça. Bon, ils ont lancé toute une offensive diplomatique, tout ça là, en disant que qu'il s'agissait pas d'un coup d'État. Alors bon, il resterait à savoir en quoi il s'agit pas d'un coup d'État. Ce que Fabius a raconté aussi, c'est que l'Union européenne n'avait pas officiellement appelé ça coup d'État, parce que ça aurait fait, d'après ses statuts, qu'ils auraient coupé l'aide à l'Égypte et que c'était pas le moment de foutre l'Égypte encore plus dans la mer. Enfin, vraiment un truc étonnamment correct dans tous les sens, quoi. Mais en tout cas, l'Union africaine, elle, de toute façon, dans ses statuts, c'est plus clair que le mot utilisé ou pas de coup d'État. Ses statuts disent qu'ils suspendent tout État membre où se produit un changement inconstitutionnel de pouvoir. Bon, généralement jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Et là, en Égypte, il n'y a quand même vraiment pas moyen de nier que c'est ça qui s'est passé. Voilà.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Alors, je vais parler maintenant de la Tunisie. Donc, les affrontements se prolongent pas mal depuis l'assassinat de Mohamed Brahmi. Et notamment dans pas mal de villes, Sidi Bouzid, où le gouvernorat a été assiégé, les postes de police cramés, Gafsa, où il y a eu des tentatives de prise du gouvernorat, Manzel Bouzen, où le poste de police a cramé, Kasserine, où il y a eu d'énormes manifs, Kef, où il y a des rassemblements impressionnants, nocturnes, et aussi à Sfax, Mandia, Kerouane, Bizerte, Sousse, Béja, Ouastir, Gebeli. Il y en a encore plein d'autres. Donc c'est assez ouf tout ce qui se passe en Tunisie. Et donc ça depuis un moment. Et là je vais revenir à partir de ce début de semaine. Donc lundi 29 juillet, dans pas mal de villes telles que Tunis, Sousse, Fax, Nabeul, Madia et Kasserine, et pas mal de celles que j'ai citées juste avant. Peu après la rupture du gène, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les grandes places, scandant des slogans réclamant la chute du régime et du mouvement Ennahda. Et devant le siège de l'Assemblée nationale constituante au Brado, les manifestants ont également rendu hommage aux soldats assassinés lundi lors d'attentats terroristes au Mont Chambi. Et de l'autre côté, les manifestants pro-légitimité ont allumé des feux d'artifice et ont décrié des slogans défendant le pouvoir en place. Donc pour dire qu'il n'y a pas qu'en Égypte où c'est... bien, bien tendu. Et du coup, bien sûr, tout cela sous forte présence policière, partout, et notamment aussi dans la ville de Sfax, où il y a toujours lundi, où il y avait devant le siège de la municipalité, à proximité du local d'Alouata, des milliers de manifestants qui se sont dirigés vers le gouvernorat de la ville. Voilà, et une manifestation qui a été précédée par un iftar géant. Certains des protestataires ont essayé de s'introduire dans le local, qui a été protégé par les membres de l'armée. Donc c'est pas que la police, c'est aussi l'armée qui est. Et voilà, et même scénario à Sousse, où il y a eu pas mal de heurts et d'affrontements, et où la police a contrebalancé par des gaz lacrymogènes. Et quoi, je voulais faire un... Ah oui, sinon, pardon, à Kasserine, les manifestants ont incendié le local d'Enarda, donc lundi soir. Et voilà, et du coup je voulais revenir sur samedi, où il y a eu des manifs très tendus à Gafsa, et où il y a eu deux morts confirmées. Le premier était un manifestant tué par une bombe lacrymogène reçue en pleine tête et tiré à bout portant, et donc c'était un militant du Front Populaire. Et il y a aussi eu un manifestant de 15 ans, et aussi un manifestant qui aurait été écrasé par une voiture de flic dans la nuit. Donc tout ça c'était à Gafsa. La Gafsa, c'est la région minière du centre de Tunisie, pour petit rappel. Et il y aurait eu une centaine de blessés, dont 21 blessures graves. Donc ça, voilà, c'est pas que joyeux. Et je voulais finir en lisant un communiqué. Parce qu'en fait il y a pas mal de comités locaux qui se créent dans pas mal de régions, ou qui étaient déjà créés et qui sont bien vivants, quoi. Et du coup c'est un communiqué d'un comité local de la région de Sidi Bouzid, de Reghèb, et je trouve que ça permet de bien voir l'intention des manifestants. Donc, je le lis. Suite à la tragédie qui a secoué la Tunisie face à l'assassinat du militant Mohamed Brahmi, le coordinateur général du courant populaire et membre du comité exécutif du Front Populaire, nous, deux points, condamnons fermement ce crime odieux qui a ciblé le martyr Mohamed Brahmi, qui présente un symbole du courant nationaliste dans le pays. Portons responsable politiquement et moralement le gouvernement de la Troïka, dirigé par le parti Enarda, pour cet assassinat politique. Appelons tous les libres de Reghèb à participer à la grève générale suite à l'appel de l'UGTT et à la désobéissance pacifique ouverte pour précipiter la dissolution de l'Assemblée constituante et renverser le gouvernement contre-révolutionnaire qui a perdu sa légitimité. Appelons les citoyens de la région à être vigilants pour éviter le chaos et le désordre, pour préserver les biens privés et publics, les vies. Déclarons la constitution d'une coordination locale au sein du bureau local de l'UGTT, ayant les prérogatives de décision et d'exécution dans les affaires locales. Voilà. Non à l'assassinat politique. Vive la Tunisie libre et digne. Voilà, et donc ça permet de bien éclaircir, et que, bah voilà, des pays où en 2011 ça a pété, il y a eu d'autres... des changements politiques, et voir que ça va toujours pas aux populations, donc Égypte, Tunisie, etc.
Hop, ça y est, j'ai fini de régler mon micro. C'est chaud pour les bijoutiers. Toute la Côte d'Azur est en train de se faire braquer. Alors, ça a commencé pendant le Festival de Cannes, où des bijoux de la maison Chopard ont été dérobés dans l'hôtel Novotel pour une valeur de plus d'1 million d'euros. Si vous non plus, vous ne savez pas ce que c'est que la maison Chopard, c'est normal, c'est que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent pour pouvoir vous les offrir. Quelques jours après, c'est un collier en diamant d'une valeur de 2 millions d'euros appartenant au joaillier suisse de Grisogno, pareil, inconnu pour nous, hein. qui a été chouré pendant une soirée au Cap d'Antibes. Alors le Cap d'Antibes, c'est un peu un endroit chic où les gens pendant le festival de Cannes ils se retrouvent. Mais là, putain, rien à voir hein, quand même. Hein. Dimanche dernier a eu lieu l'un des plus gros braquages de tous les temps. Ça s'est passé au Carlton de Cannes, toujours au même endroit, où du 20 juillet au 31 août devait avoir lieu une exposition vente de bijoux de luxe appartenant à l'homme d'affaires Lev Leviev, qui travaille dans le diamant. Alors, tous les soirs, les bijoux sont bien sûr rentrés dans un coffre-fort et tous les matins, ils sont redéposés sur les présentoirs dans les vitrines ultra sécurisées. Le tout divisé en deux lots d'environ 35 pièces. L'un des lots a une valeur de 754 000 euros et l'autre une valeur de 101 millions d'euros. Et ben, sauf que le point faible dans tout ça, c'est le moment où les bijoux quand même entrent dans le, enfin, sortent du coffre-fort et vont pour rentrer dans les vitrines, mais n'y sont pas tout à fait. Et ben, bon, bah, on y pense tous, mais il y en a qui a pensé avant nous. C'est à ce moment-là que le braqueur a décidé d'agir. Et oui, je dis le braqueur, parce qu'il agit tout seul. A priori, en tout cas, au moment même du braquage. Il a débarqué à 11h30 le dimanche, au moment de l'installation des bijoux, habillé tout en noir, un sac en bandoulière, une écharpe sur le visage et un pistolet automatique à la main.
Bonne vieille méthode.
Ouais, c'est ça, vraiment à l'ancienne, quoi. Il braque trois employés, dont le responsable de l'exposition, leur ordonne de s'allonger et récupère 30 kilos, un sac ouvert qui contient le lot numéro 2. Le lot numéro 2 complet et après ça il décide de se barrer tranquillement par une petite rue étroite qui longe l'hôtel. En à peine une minute, il vient de voler 101 millions d'euros du travail de pro, laissant les flics comme ça sans aucune piste. Là, il y a une source policière qui a témoigné, qui a dit on sait pas du tout où chercher. En tout cas, on lui souhaite bon vent et ça fait quand même d'autant plus plaisir quand on sait que le proprio multimilliardaire Lev Leviev, c'est pas grave si j'écorce son prénom parce que de toute façon on l'aime pas, est un grand mania du diamant. Il a plusieurs mines d'exploitation en Angola, en Namibie et au Congo. Là déjà, je vous laisse imaginer un peu le personnage. Plusieurs ONG l'accusent d'avoir construit sa fortune sur du sang. Son service de sécurité est connu pour maltraiter, mais quand je dis maltraiter, c'est vraiment un euphémisme. Tous les miniers, ça veut dire qu'il... Je pense qu'on peut vraiment parler d'esclavagisme. Il est également le propriétaire d'une société immobilière qui investit et construit énormément dans les colonies juives en Cisjordanie. Alors voilà, en voyant le personnage, on est plutôt content qu'un voyou ait réussi à lui dérober 101 millions d'euros et à lui mettre la honte devant tous ses clients. Et c'est pas fini, un petit dernier juste pour rire. Trois jours plus tard, deux braqueurs se sont attaqués à un horloger de luxe, toujours sur la croisette. Ils sont repartis avec plus d'un million d'euros de montres.
Eh ben c'est l'été, et l'été souvent rime avec expulsion. Et là, je vais parler d'expulsion de deux squats à Toulouse, ouverts notamment par des membres du CREA. Donc le CSA a été expulsé le vendredi 26 juillet au matin et la caillasserie hier, mardi 30 juillet au matin. Donc le CSA, c'est après 7 mois d'occupation, donc le centre social autogéré du de Faubourg Bonnefoy a été expulsé donc à 6h30, une centaine de flics, la police aux frontières, la PAF, Dominique Black et la direction départementale de la cohésion sociale. Et une dizaine de camions de déménagement étaient présents pour virer les gens. Donc ça s'est fait en grande pompe, cette expulsion. Et ils ont aussi raflé des personnes sans papier. Et un des témoignages d'un des flics entendu ce matin-là, c'est mieux pour travailler, il fait moins chaud. Donc, parce que c'était au petit matin, 6h30.
Connard.
Ouais, connard. Donc tout le monde a été contrôlé et donc on peut voir que l'État a mis de gros moyens pour remettre des personnes à la rue plutôt que l'inverse. Bref. Donc bilan, 40 personnes à la rue, une seule nuit d'hôtel pour les deux familles avec enfants présentes. Les autres étant hébergés et ayant déménagé au préalable en prévision de l'expulsion, et trois personnes embarquées au poste par la PAF. Donc ces personnes se retrouvent avec des OQTF d'un délai d'un mois. Et donc pour ce squat, ce qui s'était passé, c'est que la mairie avait promis que les enfants pourraient terminer leur année scolaire. Donc on peut voir qu'elle a tenu ses promesses. Et sinon hier, c'était l'expulsion de la caillasserie, donc c'était aussi Faubourg Bonnefoy. Donc ce qui était un lieu réquisitionné depuis mars. Donc la PAF et Madame Bacle étaient encore présents, et voyant qu'il n'y avait pas de personnes sans papier, ils sont rapidement retournés à leur bureau, et donc cette expulsion était expéditive, et ils n'ont même pas muré puisque c'est un tractopelle qui est venu tout détruire ce bâtiment. Voilà, et là je vais lire pour finir un petit truc des membres du CREA, parce qu'il faut ça va être dit dedans. De bâtiments vides, nous avions fait des lieux de vie, d'échange, d'organisation. La préfecture vide le quartier Bonnefoy et ses squatteurs et de ses habitants. Des bâtiments redeviennent vides et d'autres le restent, et tout ça retourne à la spéculation de l'immobilier et à la préparation de l'arrivée de la LGV. Les pauvres sont poussés hors de la ville au profit de leurs grands projets inutiles. Malgré la répression active, nous continuons des réquisitions toujours et encore. Voilà, parce que petit détail, dans ce quartier du centre toulousain, il va y avoir une grosse réhabilitation urbaine, et du coup il vide ce petit quartier.
Alors, c'est un chiffre officiel du ministère de l'écologie. 93% des cours d'eau français sont pollués par des pesticides. La note statistique que vient de publier le Commissariat général au développement durable, qui est un organisme donc du ministère de l'écologie, montre que ce qu'il y a de plus durable finalement dans la politique environnementale française, bon, avec le nucléaire, c'est la pollution des eaux de surface. Ça, c'est des analyses, donc la note vient d'être publiée, mais c'est des analyses qui datent de 2011 et qui font apparaître la présence de pesticides dans 93% des cours d'eau de France métropolitaine. Pardon. 30% des eaux analysées présentent des teneurs en produits donc d'origine agricole qui les rendent impropres à toute consommation. Et on a encore mieux. Parmi la quinzaine de pesticides qui ont été détectés, il y en a trois qui sont quand même interdits d'usage, dont un qui est interdit d'usage depuis une dizaine d'années. Un résultat qui illustre l'abandon dans lequel les gouvernements de droite et de gauche ont laissé les fleuves et les rivières depuis une trentaine d'années. Et surtout, la pression du lobby agro-industriel qui est soutenu par le syndicat agricole dominant, la FNSEA.
Si, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais est-ce que si on retrouve ces traces-là du truc qui est interdit depuis hyper longtemps, c'est qu'on n'en a rien à foutre s'il y en a qui continuent à l'utiliser, ou c'est juste qu'ils ont arrêté de l'utiliser, mais juste que c'est encore dans le sol?
C'est bien qu'il y a des gens qui continuent à l'utiliser, okay, ça c'est sûr. Pour régler cette question, la question de cette pollution-là, les politiques français ont décidé, eux, ils ont eu raison, hein, ils ont pris les mesures qu'il y avait à prendre, ils ont prises fermement et ils ont fait interdire par les préfets les baignades dans 95% des cours d'eau. Ce qui évite d'avoir à y pratiquer régulièrement des analyses qui seraient autrement publiées en mairie et tout ça, et comme ça se fait pour les plages du littoral. Ça n'empêche pas que les gens s'y baignent, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un flic qui vient surveiller si on s'y baigne, mais comme ça, au moins, ils n'ont pas à faire des analyses. Alors, la Confédération Paysanne, elle, dans un communiqué, rappelle que la consommation de pesticides a augmenté de 7% entre 2010 et 2011. Donc, contrairement à toutes les promesses et engagements du Grenelle de l'environnement. Et la conf souligne, ces chiffres démontrent aussi l'aspect irréversible de la contamination, et elle ajoute, il faut d'urgence mettre en place une politique agricole qui permette aux paysans de s'affranchir progressivement de ces produits qui sont néfastes pour la santé et en plus qui pèsent lourd dans les budgets, et il faut soutenir un modèle agricole qui soit respectueux des paysans, de la santé des consommateurs et de l'environnement. Voilà. Comme d'hab, la FNSEA c'est les méchants, la conf c'est les gentils.
Pour rester à la campagne, il y a eu un festival à Glandage qui s'appelait Rockingat. où Radio, on, des membres de Radio Camnu y étaient, et on en a profité pour interviewer une personne qui fait partie de ce groupe qui s'appelle Les Amis de Radio Montaiguille. Et c'est une radio qui est en truc judiciaire, là, où elle est en train de s'effondrer, et des, plein de gens, plus ou moins chouettes, mais surtout chouettes, sont en train de, d'essayer de la récupérer. Donc c'est une petite explication. Et du coup, c'est une radio du Trièves, donc pas très loin, plutôt dans la région de Grenoble, on va dire.
Radio Montaiguille, donc c'est la radio qui émet depuis presque une vingtaine d'années sur les vallées de Trièves, Matésine, Beaumont, Valbonnet, du coup de l'autre côté du Vercors, pas si loin d'ici. Et je sais pas si c'était arrivé jusqu'au Diois, mais en tout cas l'info c'est que depuis pas mal d'années maintenant, il y avait surtout deux affreux qui s'étaient un peu accaparés l'outil radio, pour pas faire de radio, mais par contre pour jouir du fric, pour faire de la radio. Et du coup la radio s'en ressentait vraiment, parce que c'était vraiment assez pourri au niveau de la programmation. Il y avait des salariés, mais qui valsaient tout le temps parce qu'ils trouvaient pas leur compte là-dedans, ou s'ils râlaient trop fort, ils se faisaient gicler. Enfin bon, voilà. C'était pas hyper marrant. Et puis du coup, comme on est toute une bande à vivre dans ces endroits-là, on s'était regroupé avec plein de monde il y a 2 ans pour monter une asso qui s'appelait à l'époque Les Amis de Radio Montaiguille. Mais du coup, ça brassait vraiment plein de gens, quoi. La première AG, on était 150 du coin à se réunir et tout, pour se dire en fait ça va pas, faut changer cette radio. On avait fait ça aussi parce qu'à l'époque ça allait tellement pas qu'ils avaient cessé d'émettre pendant plus de 2 mois, et après à plein de moments ils faisaient des rediffusions pourries. Puis on avait aussi rencontré des salariés qui se plaignaient vachement de l'ambiance dans la radio. Bref, on a monté cette radio, cet asso des Amis de la radio, pour essayer au départ de changer la radio de l'intérieur. Ce qui n'a pas du tout marché, ils avaient tout verrouillé au niveau démocratie interne de l'asso pour qu'on puisse pas rentrer dedans. C'était hyper dur de proposer des programmes, et en tout cas même les quelques amis qui ont pu proposer des émissions, ils n'avaient pas du tout accès pour autant à des instances de décision dans la radio, quoi. Du coup, au bout d'un moment, on est rentré en mode plus offensif pour foutre la pression. On a essayé de dénoncer un peu partout ce qui se passait, de rappeler que c'était du fric public qui était investi sur la radio pour un projet qui était censé être associatif, local, communautaire pour les habitants, et puis qu'en fait, c'était pas le cas. Et puis, on a fait aussi des actions, quoi. On s'est mis à faire de la radio dans la rue, sans onde, à émettre en direct, genre à monter un plateau radio sur la place du marché à Mince, là, sur le Trièves, où on se fait plusieurs heures d'émission sonorisées avec une sono, quoi, comme un concert sur la place, en disant, bah voilà, on n'accède pas aux ondes, donc on fait de la radio dans la rue. Bref, tous ces efforts, ça n'a pas mené à grand-chose sur le moment, parce qu'on n'a pas réussi à les faire sauter. Et au final, ils se sont fait sauter tout seuls. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'ils sont partis avec plus de 200 000 euros. Bon, je raccourcis en disant ça, mais c'est des histoires de fonds de réserve, de subventions, etc. Et à la fin, ils étaient allés tellement loin dans leur truc qu'ils n'avaient même plus le pognon pour licencier correctement les salariés. Donc, ils se sont mis en cessation de paiement. Et derrière, ils ont licencié sans indemnité, et c'est un liquidateur qui a été nommé pour faire une liquidation judiciaire, c'est-à-dire retirer la fréquence de la radio, vendre tout le matos des deux studios de Mince et de Lamure aux enchères, donc a priori y compris les antennes et compagnie, quoi, que la radio soit fermée. Alors, cette histoire de liquidation judiciaire, ça se passait ce printemps, là, en avril. Et puis, ça a été la panique, quoi, parce qu'on l'a appris, c'était déjà en train de se faire. Donc là, on a un peu réactivé le réseau des Amis de Radio Montaiguille. On a fait une AG, on s'est retrouvés à 80, et puis on a décidé ensemble que c'était peut-être la plus grosse chance qu'on avait de faire de la radio. Alors, on a décidé de candidater pour reprendre la fréquence, et puis de trouver du pognon pour racheter tout le matos mis aux enchères, quoi. Ce qui fout les boules, parce qu'en plus c'est du fric public qui a été mis pour acheter tout ce matos, il faut qu'on le rachète et compagnie, mais bref, il n'y a visiblement pas trop le choix. Et là on est parti là-dedans, on a lancé une souscription à laquelle tout le monde peut participer pour nous aider à faire cet achat. En gros, on a trouvé des gens pour nous prêter, pour avancer le fric, donc ça va se faire, et puis ça laisse plus de temps pour que des gens y puissent souscrire et contribuer à racheter tout ça, et nous donner un peu de pognon aussi pour relancer la radio. Et puis, on bosse sur une grille des programmes pour l'automne pour candidater auprès du CSA pour avoir la fréquence. Sachant que, faut y aller parce que là, il y a déjà une radio commerciale qui s'est positionnée, une radio de station là, qui fait de la pub pour des hôtels et des stations de ski et qui a déjà 7 fréquences dans les Alpes. Donc, mais on a bon espoir que ça marche. Et puis après, le truc, c'est surtout de lancer une dynamique vraiment plus locale, associative, communautaire. On peut appeler comme on veut. Il y a des gens qui parlent de radio de pays ou quoi. En tout cas, une radio qui colle avec les gens qui habitent dans ces vallées-là et qui en même temps déménagent. Et puis pour ça, de monter une dynamique d'auditeurs et aussi surtout faire appliquer plein de gens pour faire de la radio, apprendre à en faire ensemble. Voilà. Du coup, c'est ça, un peu pour finir. On a commencé à programmer des moments de formation. Et puis le moment le plus important, ce sera fin octobre, du 24 au 27 octobre. Dans Trièves, Matésine, Valbonnet, Beaumont, où on va organiser 4 jours d'ateliers d'échange de savoir sur les techniques radio, depuis le montage son, les techniques d'interview, le travail en régie, mais aussi comment vit une radio associative, les différentes expériences qu'il peut y avoir de ça. Et du coup, s'il y a des gens qui ont envie de nous proposer d'animer des ateliers, il faut qu'ils prennent contact avec nous, il y a un mail. C'est les amis de RMA, comme Radio Montaiguille, tout attaché, @orange.fr. Voilà. Puis c'est aussi par mail, vous pouvez nous contacter sur les histoires de souscription. Et donc, c'est pareil. Et si tout marche, moi je pense que ça va marcher, on devrait avoir les ondes au printemps 2014, et puis d'ici là, peut-être même on relancera déjà une web radio, ou en tout cas c'est sûr, on va essayer de fabriquer des émissions et de passer des accords avec d'autres amis, d'autres radios locales, pour faire des échanges d'émissions et de la coproduction, tout ça, voilà.
Et vous avez quand la réponse du CSA?
C'est ça, a priori au printemps. On candidate à l'automne. Je sais pas, peut-être c'est plutôt dans l'hiver, mais on a les ondes réellement qu'au printemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est soutenu localement, notamment par les communes qui mettaient à disposition les locaux pour la radio. Du coup, on pourrait sûrement réaccéder au studio radio avant et commencer à travailler là-bas, en situation avec des gens. Et puis, il y a dans les assemblées générales qu'on a faites, il y a vraiment noir de monde qui est venu, enfin plein de monde, notamment par exemple des profs du collège d'à côté qui ont commencé à brancher leurs élèves sur des minutes ados et collégiennes. Plein de trucs en fait, des idées de fiction radiophonique, des idées de d'émissions d'info, en tout cas, il y a plein d'idées. On a surtout besoin d'aide, de gens qui viennent nous montrer comment on fait, parce qu'on n'est pas très nombreux à avoir déjà fait de la radio, qui nous encouragent un peu là-dessus, pour aussi faire avec des bouts de ficelle, et puis au moins dans une première étape sans salarié, ce que moi je trouve super, mais qui demande énormément d'énergie, surtout entre des gens qui sont très différents, qui n'ont pas de pratique commune de l'organisation, qui du coup doivent apprendre en même temps la technique radio et puis juste à faire ensemble des choses. Voilà. Donc c'est un gros morceau, et en tout cas, je ne sais pas pour dire, mais peut-être pour conclure là-dessus, le truc qui est vraiment cool dans l'histoire pour moi, c'est que cette radio, elle a été tellement plombée et merdique et molle et consensuel pendant quelques années avec des documentaires sur les commerçants du coin et je sais pas quoi d'autre, mais enfin vraiment très très peu de contenu, et bien que les salariés fassent tout ce qu'ils peuvent, il y a eu vraiment un boulot de fait à ce niveau-là, mais il y avait pas de contenu, les gens pouvaient pas accéder à la radio. En tout cas, cette expérience-là, elle a fait que autour de nous, les gens qui parlent de la radio, ils disent non, mais une vraie radio pour les habitants et pour tout le monde, c'est pas une radio consensuelle, c'est une radio qui débat, c'est une radio où quand des gens sont en émission dans le studio, racontent un truc et qu'on est choqué, on descend dans la rue, on se pointe au studio, on prend le micro et on dit non, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Voilà. Du coup, plutôt une radio qui remue, quoi. Et puis qui s'inscrit dans toutes les luttes qui se passent par chez nous, que ce soit contre l'autoroute, sur les questions de territoire, de puçage, de rapport à la terre, mais aussi le lien avec Grenoble, la ville à côté, et plein d'autres dynamiques de bagarres sociales qui existent. Alors j'espère que ça va donner ça. Vous avez qu'à venir nous aider. Voilà.
Merci.
Faut que ça sache. Il faut
que ça se sache.
Alors une première brève, il faut que ça se sache. Une évasion avec complicité vers Metz. Juste avant une expulsion, ça s'est passé le 26 juillet 2013. Et alors qu'ils escortaient deux personnes originaires du Kosovo vers le centre de rétention de Metz, il y a quatre flics de la PAF qui ont été agressés sur une aire d'autoroute par des personnes munies de cutters. Ils ont été plaqués au sol, on leur a collé une lame sous la gorge et du coup les flics, ils ont pu qu'assister complètement impuissants à l'évasion de leurs deux prisonniers qui, pour le moment, n'ont pas été retrouvés. Donc on leur souhaite bonne route.
Que ça se sache.
Et là, on va aller en Italie où une nouvelle révolte du CIE. Alors, on répète, les CIE, c'est l'équivalent des centres de rétention administratifs, mais italiens. À Turin, alors ça s'est passé dans la nuit de dimanche 22 à lundi 23, les retenus de la section blanche. Alors la section blanche, c'est la partie du centre de rétention la plus neuve et présentée comme soi-disant super sûre. Et ben les retenus se sont rebellés et ont mis le feu à leur matelas. Bien d'autres armes à feu se sont allumées dans la section jaune, dans la section rouge et dans la section bleue. Alors ça, c'est les petits noms des sections du centre de rétention. Au cours de l'émeute, certains retenus ont tenté de s'échapper. Certains ont été repris immédiatement. Un autre se blesse en tombant et a été transporté à l'hôpital. Et un autre aurait probablement réussi à s'évader. En tout cas, on le souhaite. Plusieurs retenus ont été arrêtés par la suite pour les divers dommages causés au centre. Alors, pour clôture ce Canu Info, on va faire un petit point sur les autoroutes avant vos départs. Mais on va pas vous parler ici des conditions de circulation, il y en a d'autres qui le font bien mieux que nous. Mais on va plutôt vous avertir sur la fraude à quelques jours des grands départs. Alors, si vous êtes adepte de la technique dite du petit train, il va falloir faire gaffe. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette technique, ça consiste à frauder le péage, en gros, à pas payer. Alors, la technique, je vous la décris. Vous vous calez derrière une voiture qui va payer à une borne automatique et au moment où la voiture de devant vous commence à avancer parce que la barrière se lève, là, vous collez à une distance à peu près équivalente à une remorque, en gros, hein. Pas trop près non plus pour pas la taper. Et vous démarrez en même temps qu'elle. Comme ça, la barrière n'a pas le temps de se refermer. Si tout se passe bien, au pire, c'est pas très grave, ça tape juste le capot et elle se relève assez vite. Et là, vous venez d'économiser le prix du péage. Bon, c'est bien. Jusque-là, on était contents, on le faisait, tout ça. Mais parce que les péages, ils n'étaient pas forcément tous équipés de vidéosurveillance au niveau des plaques d'immatriculation, ou alors ils filaient pas d'amende systématique, ce qui en faisait un système de fraude quand même plutôt rentable. Mais au début de l'été, beaucoup de choses ont changé. Avant, en gros, les autoroutiers, genre Vinci, ASF, etc., n'avaient pas accès aux fichiers des plaques d'immatriculation. Ce qui les obligeait, une fois la fraude constatée par caméra, de monter un dossier par personne et ensuite le filer aux flics, qui eux dressent un procès-verbal, qui l'enverront au procureur. Bon, en gros, la conséquence de ça, c'est que, à moins de frauder le péage tous les jours ou de manière vraiment régulière, ils n'allaient pas s'emmerder avec de la paperasserie pour une personne qui a fraudé leur péage une fois de temps en temps ou une seule fois dans l'année. Mais au début de l'été, ces salauds de la CNIL ont donné leur autorisation pour que les autoroutiers aient un accès direct au fichier des plaques d'immatriculation. Ce qui risque d'avoir pour effet une automatisation des amendes. Dès maintenant, ils peuvent, une fois l'immatriculation relevée par caméra, taper sur leur ordi les plaques et avoir votre adresse. Ce système fait donc considérablement augmenter les risques de recevoir une prune chez soi. Le montant de l'amende sera le trajet maximum plus 20 ou 30 euros. Et donc forcément pour vous choper, ils ont mis tout un tas de caméras au niveau des plaques aux caisses automatiques et aux télépéages qui photographient les plaques si vous forcez la barrière. Bref, si vous êtes adepte de cette technique, faites gaffe cet été ou trouvez un autre moyen de frauder parce qu'on ne va pas non plus pleurer sur le sort des autoroutiers. Juste une petite estimation, sur 1,2 milliard de passages, on serait entre 1 et 2 millions. Mais alors ça, c'est les sociétés d'autoroutes qui donnent le chiffre, on serait 1 ou 2 millions à frauder. Pour mettre en balance, en 2011, les autoroutes ont rapporté 2 milliards d'euros aux autoroutiers. Voilà, en gros, c'est quand même pas beaucoup la fraude. Mais comme ça ne suffit pas, là, ça vient de sortir, ils comptent augmenter les tarifs d'ici peu, mais on ne sait pas vraiment combien. En attendant, faites gaffe à la barrière.
Eh ben, bonne soirée.
Eh ben oui, hein, et alors encore une fois... Les gens qui attendent avec impatience les infos anarchistes qui nous suivent habituellement, vous en êtes pour leurs frais et il semble bien qu'ils vont écouter de la très bonne musique de Radio Canu à la place. Bonsoir.
Bonne soirée.